me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel rôle jouent les structures temporelles autonomes? Pourquoi les grammaires musicales génératives et doit-on les entendre? Quelles sont les règles de successivité? Le compositeur Philippe Manoury, titulaire de la chaire annuelle de création artistique, poursuit son exploration des relations entre temps et musique, initiée dans le cours précédent dans le cadre de sa série intitulée « Musique, sons et signes ». Aujourd'hui, il nous inscrit plus particulièrement au cœur de ses recherches. Professeur émérite à l'Université de Californie à San Diego, fondateur de sa propre académie de composition dans le cadre du festival Musica à Strasbourg, Philippe Manoury est l'un des pionniers dans la recherche et le développement de la musique avec électronique en temps réel, depuis ses débuts en tant que jeune musicien-chercheur à l'IRCAM. Omer Corlet et Jean-Guillaume Lebrun, qui ont publié « La musique du temps réel », entretien avec Philippe Manoury, expliquent en ouverture, et je les cite, que le musicien s'est imposé au fil du temps comme le compositeur du temps réel, une musique mixte mêlant aux sons instrumentaux des sons de synthèse élaborés à partir d'une captation du flux instrumental et transformés simultanément à l'aide de machines. Répond de Pierre Boulez, composé pour et avec la 4X, conçue par le chercheur Giuseppe Di Giugno, inaugurer cette nouvelle voie ouverte à l'écriture musicale. Désormais exposée au Musée de la Musique à Paris, la célèbre machine fait partie de l'histoire, nous disent-ils. Cette même année 1981, Philippe Manoury, alors âgé de 29 ans, rejoint l'IRCAM en qualité de chercheur. Il travaille avec Miller Puckett à l'élaboration du logiciel Max. Il en rédigera d'ailleurs le manuel d'utilisation en 1988. Les deux auteurs poursuivent encore et soulignent que plus que Pierre Boulez, Philippe Manoury est bien le compositeur emblématique de l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, tant pour le nombre d'heures passées dans ses studios que pour le nombre d'œuvres réalisées avec les outils élaborés sur place. Ce matin, Philippe Manoury nous présente ce qu'il appelle les grammaires musicales génératives. Il explique que l'ordre des événements dans le temps crée un sens musical. Il questionne la nécessité de considérer une syntaxe musicale et comment elle peut ouvrir des voies nouvelles. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 9 juin 2017 pour le cours de Philippe Manoury, aujourd'hui, temps et musique, grammaire musicale générative.
Aujourd'hui, je vais me pencher sur une autre partie donc de la pensée temporelle en musique, qui est pour moi très importante, que j'ai appelée, enfin, j'ai donné le nom de grammaire générative musicale, je vais revenir tout à l'heure, mais enfin, disons que la substance de cette problématique va toucher la successivité, c'est-à-dire quelque chose qui est important dans le contexte de la composition musicale. Alors, comme je pense, ça, c'est valable pour la musique, mais ça peut être valable pour aussi de n'importe quoi, enfin même la parole. Comme je dis, c'est l'important, c'est ce qu'on dit, évidemment, mais aussi le moment où on le dit. C'est-à-dire que il faut que ce soit ni trop tôt ni trop tard, il faut que le moment soit approprié. Alors c'est une métaphore, mais évidemment, en musique, le moment est toujours quelque chose d'important, puisque une chose, un événement musical se situe avant, et des fois avant et après un autre moment musical, enfin moment ou disons événement musical, et la place donc de ce moment est fortement conditionnée par la mémoire de celui qui précède et peut-être par l'anticipation de celui qui vient. Et donc c'est vraiment le moment est aussi important que la chose elle-même, enfin que ce que l'on dit. Alors l'ordre des événements dans le temps crée un sens musical. Alors j'avais un peu parler de ce que j'entendais par sens musical pendant ma leçon inaugurale. Évidemment, ce n'est pas un sens sémantique, puisque la musique ne véhicule pas un contenu sémantique comme peut le véhiculer le langage parlé, ça c'est clair. Mais disons qu'un sens musical se fait d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que quand des éléments semblent se coaguler ou s'enchaîner l'un avec l'autre de manière organique et finissent par faire un tout, ce tout devient, et alors que c'est un tout composite, mais il peut devenir quelque chose d'intégral et qui finit par avoir un sens en soi, c'est-à-dire qu'on le perçoit, c'est ce que les Allemands appellent la Gestalt, évidemment c'est un mot qui fait cruellement défaut en France, mais il est très pratique en Allemagne, en tout cas, c'est-à-dire le sens formel qui se crée avec des éléments, et on sait que les parties et le tout sont des choses assez différentes, mais je ne suis pas rentré dans ces considérations-là. Alors, dit que l'ordre des événements crée un sens musical, puisque quand un événement se situe avant un autre, eh bien, il peut y avoir, grâce à la répétition, un ordre temporel peut créer une anticipation, c'est-à-dire que ce que j'appelle la répétition, ça n'a rien à voir avec les répétitifs américains, cette école de composition du XXe siècle, mais c'est vraiment la répétition structurelle, ce que je préfère appeler la permanence d'une structure, c'est-à-dire quand il y a une structure qui, au cours du temps, reste permanente et produit un ensemble de relations qui, lui, ne bougera pas. Et donc, il y a une répétition au niveau structurel, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une répétition au niveau formel. Je viendrai un petit peu plus tard sur les notions de forme et de structure, qui sont deux mots qu'on utilise souvent, mais ce que je pense, et ce que je sais, et ce que j'ai vécu, c'est que grâce à cette permanence de structure, un ordre temporel peut créer une anticipation, c'est-à-dire que j'ai un événement B qui est suivi d'un événement C. Si cette successivité B avant C est permanente au cours du temps, je vais finir par créer une anticipation, c'est-à-dire que quand B va venir, je vais attendre C. Alors, est-ce que cette attente sera comblée ou non? Ça, c'est autre chose. Et donc là, il y a d'autres phénomènes, mais je sais que, pour avoir beaucoup parlé avec certaines personnes qui s'occupent de ces choses-là dans le domaine du cerveau, comme Jean-Pierre Changeux ou Stanislas Dehaene, je sais que ça a une réalité physique, enfin neurologique, c'est-à-dire que l'anticipation peut se mesurer, et il y a ce que les neurologues appellent ça, il y a un phénomène de récompense, c'est-à-dire que on anticipe quelque chose, on attend quelque chose, quand cette chose arrive, on obtient une récompense qui se traduit chimiquement dans le cerveau par des phénomènes qui ont été tracés et suivis. Mais en tout cas, cette anticipation, j'en ai parlé beaucoup au cours de cette année, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la perception musicale. Il y a des musiques qui ne conçoivent pas l'anticipation, mais ça c'est autre chose, mais disons que dans une grande partie de la musique, disons, de tradition européenne, le phénomène d'anticipation est quelque chose qui est très important. Et donc, après cette anticipation, enfin disons cette répétition et cette permanence de structure, il y a la nécessité de considérer une syntaxe musicale. Alors la syntaxe musicale, c'est un terme qui est assez nouveau, mais c'est vraiment ce qui va structurer l'ordre de succession des événements dans le temps. Et je vais vous en montrer quelques exemples par ce que j'appelle des règles de successivité. Alors l'idée m'est venue de manière un peu abstraite, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé, je me demande encore, et d'ailleurs je le vis aussi en composant, dans quel ordre les choses ont été composées. C'est-à-dire que quand on compose, vous avez une partition, enfin vous avez une musique qui est finie, qui est composée, avec les événements se déroulent dans un certain ordre. Est-ce que cet ordre-là correspond à l'ordre de composition? Dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a une composition, et ensuite il y a un arrangement temporel, il y a des stratégies temporelles qui fait qu'on va décider, après coup, mais pas au moment vraiment où les idées affleurent, je dirais, à la conscience, et puis dans le crayon qu'on les écrit, il y a l'ordre de la composition ne respecte pas n'est pas respecté dans l'ordre de la forme, c'est-à-dire dans la manière dont les éléments vont se succéder. Et c'est pour ça qu'il y a dans la musique, j'ai mis comme ça quelques noms connus, enfin, qui s'appellent donc les introductions, les transitions, les conclusions, les expositions, les développements, toutes ces formules, enfin, tous ces termes musicaux sont des termes hautement temporel, qui reclire le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une introduction, c'est quelque chose qui va précéder un motif. Par exemple, on en trouve beaucoup chez Berlioz, chez Beethoven, et même chez Debussy, et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un motif, et puis on décide que ce motif va être précédé par quelque chose qui va le préparer. Alors, c'est-à-dire qu'on pense qu'il vaut mieux que le motif soit amené plutôt que rentrer directement dedans. Il est évident qu'on va le présenter comme une introduction, c'est-à-dire quelque chose qui est avant, mais dans le domaine de la composition, ce sera une déduction, puisqu'on va déduire l'avant après, c'est-à-dire qu'on a d'abord le motif, et ensuite on en déduit quelque chose qui va l'introduire, donc dans l'ordre de la composition ça vient après, mais on va le mettre avant. Alors pour vous donner un petit exemple de ça, j'ai pris un exemple simple tiré d'une sonate de Mozart, sonate en la mineure. Alors évidemment, comme on dit, j'étais pas là pour tenir la chandelle quand Mozart l'a composée, donc je peux pas dire quoi a été composé avant. Mais on peut quand même se poser des questions. Et ici, j'ai pris un extrait du premier mouvement, qui est, alors c'est quelque chose de très classique, mais bon, ça pose le problème, qui est la transition entre le premier et le second thème, et on va voir ensuite comment les choses se placent. Donc c'est la transition entre le premier et le second thème de la sonate en la mineure. Donc, c'est quelque chose qui a été fait, qui se place après le premier thème et avant le second thème, et qui va servir de transition, servir de passage dans une même continuité, à la fois comme mémoire de ce qui s'est passé et comme anticipation de ce qui va arriver. Alors, la mémoire de ce qui s'est passé, on peut le réécouter pour l'avoir dans la tête. Au début, on a un rythme pointé, c'est-à-dire ce rythme ta-ta-ta-ta, un rythme de marche. Et celui-là. Bon, ce sont des rythmes tout à fait classiques, hein. Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil quand Mozart a écrit ça, mais la manière dont c'est placé donc rappelle, alors au niveau de la mémoire, ce rythme pointé, évidemment, c'est ce qui définissait le premier thème. Voilà. Et puis, ensuite, la deuxième partie, qui était basée sur une répétition de quatre notes, va devenir l'ossature du second thème qu'on a ici. Alors, est-ce que ça a été composé avant ou après la transition ? On n'en sait rien, mais on peut très bien imaginer les deux solutions. Le fait est que la transition, qui a été composée, en tout cas probablement peut-être après les deux thèmes, va se trouver au milieu des deux, et donc on peut imaginer que Mozart a eu vraiment l'idée de ce thème-là au début, puisque c'est un thème en soi. On peut imaginer que ce thème-là, finalement, est un peut-être conçu, mais on ne peut pas en avoir la certitude, comme une conséquence de la transition, alors que la transition était plutôt venue pour la préparer. On va réécouter cette transition. Voilà le rythme pointé du premier thème. Et maintenant, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Et donc, dans cette continuité, on obtient ces transitions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas savoir dans quel ordre ça a été écrit, mais il y a toujours un arrangement temporel qui va faire qu'on va faire des successivités dans un certain ordre, parce qu'on le trouve plus logique que l'autre. Alors, l'ordre de successivité, donc je viens d'en parler, c'est la composition ces structures, et surtout la permanence de la structure, ce qui permet la conservation des relations au cours du temps, mais aussi l'évolution structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui restent permanentes, mais il y a des structures qui vont évoluer au cours du temps et qui vont se modifier. Et ça, on va voir comment ces choses-là peuvent être décidées. Alors, c'est évidemment le problème maintenant qui se pose, la question qui se pose, c'est forme ou structure. Qu'est-ce que c'est que forme ou structure? Alors, moi, j'aurais tendance à définir ça de la manière suivante. La structure, c'est vraiment l'ensemble des relations qui vont fonder une partie de la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va avoir des relations qui peuvent être des relations d'intervalle, des relations mélodiques, des relations rythmiques, des relations dynamiques, des relations de tempo, des relations de timbre même dans la musique d'aujourd'hui. Mais disons, on a des relations qui vont être stables, mais qui vont se manifester sous des formes différentes. Et donc, on peut avoir, par exemple, des thèmes qui appartiennent à la même matrice, mais finalement, ces thèmes vont exprimer des choses différentes, vont avoir des caractères différents. Et donc, c'est en cela que moi, je vois la différence entre forme et structure, qui est quelque chose, pour moi, qui joue beaucoup sur les notions de permanence et d'évolution. C'est-à-dire qu'on a d'un côté l'entretien d'une structure et de l'autre côté, au contraire, quelque chose qui va évoluer, qui va se modifier au cours du temps. Et je pense qu'on peut, sans trop de dégâts, on peut affirmer que finalement, ce qu'on peut entendre par la forme, c'est vraiment la manière dont une structure permanente va se révéler au cours du temps. Mais la structure, évidemment, peut être évolutive, elle n'est pas tout le temps permanente. Et je vais vous en montrer justement une manière. Comment est-ce qu'on peut établir donc des règles de successivité, et comment est-ce qu'on peut établir une syntaxe musicale à partir d'éléments indépendants. Alors, j'ai pris comme exemple une œuvre qui est assez ancienne, puisqu'elle est composée en 2006, qui est Partita 1 pour alto et électronique. Partita, j'ai pris ce nom-là, évidemment en référence aux Partita de Bach et d'autres, mais plutôt c'est parce que ce sont des œuvres qui sont destinées aux instruments à cordes, donc ce sont des instruments à cordes, mais qui vont être non pas pour instruments solo, mais toujours instruments solo, plus électronique en temps réel. Et donc voici par exemple une phrase musicale, qui est une phrase un petit peu, la phrase liminaire, qui va irriguer toute la construction suivante. Donc une phrase musicale que je vais maintenant vous montrer en détail, parce que vous allez voir que c'est une phrase, mais comme une phrase est composée de mots, cette phrase musicale est composée de fragments musicaux qui ont chacun une morphologie différente. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle une pédale, c'est-à-dire que c'est une note qui est répétée, toujours la même, qui sert de basse et de sous-bassement pendant toute la phrase, mais même pendant toute une section. Et c'est une note qui est répétée, mais avec des valeurs irrégulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tempo fixe, mais la répétition est tout le temps variée, mais ça ne bouge pas au niveau donc, du contenu mélodique, puisque c'est toujours la même note qui se retrouve répétée. On va l'écouter. Thank you. Le deuxième élément, lui, est défini dans un autre registre. Il est défini dans le registre des registres, justement. C'est-à-dire qu'il est défini dans l'extrême aigu. C'est une pédale, aussi, comme celle-ci. Mais autant celle-ci était mobile, celle-là sera immobile. Autant celle-ci était plutôt dans le grave, celle-là sera dans l'extrême aigu. C'est donc un son tenu assez long dans l'extrême aigu. Donc ça dresse un paysage. Disons que c'est à partir de sur ce substrat-là que les choses vont se construire. Ensuite vient une phrase plus virtuose qui est basée sur un contour mélodique, mais surtout qui est basée sur... Alors ça, c'est ça vraiment au niveau de la structure. Qu'est-ce qu'il a défini? Ce sont des notes différentes, donc c'est une mélodie, donc ce n'est pas les mêmes notes, mais avec un rythme totalement égal. Donc c'est l'inverse de ça, qui est la même note avec un rythme différent. Ici, ce sont des notes différentes avec un rythme égal et d'aspect assez rapide. Voilà, c'était une note très rapide, mais d'un seul tenant. Ces notes très rapides, ensuite, se déroulent et se terminent sur un trille, qui est donc une ornementation qui était très à la mode à l'époque baroque, mais qui a survécu. Et ce trille se termine par ce qu'on appelle un ricochet, c'est-à-dire c'est une manière de faire rebondir l'archet sur la corde de manière libre, c'est-à-dire que l'archet, avec sa propre inertie et le propre mouvement du bras, fait un rebondissement totalement libre sur la corde. Voilà, comme quelque chose qui rebondit. Ensuite, on a un autre type d'ornementation qui est le trémolo, donc qui est la répétition régulière ou irrégulière, mais extrêmement rapide d'une seule note. On l'entendait à peine. Et ici, un élément qui est déterminé par son caractère dynamique, c'est des sons crescendo. Et ça, c'est une forme phraséologie, une formule qu'on utilise beaucoup maintenant dans la musique actuelle et qui provient des premières techniques électroacoustiques, finalement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'avaient découvert les premières personnes qui faisaient des techniques électroacoustiques? C'est qu'avec une bande magnétique, on pouvait jouer le son à l'envers. Et un son qui est plutôt caractérisé par une attaque et puis une extinction, si on le renverse, au contraire, on a l'attaque à la fin et l'extinction qui devient un crescendo. Et donc, c'était finalement des formules qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, mais qui étaient pratiquement absentes, très rares, avant le XXe siècle. Et ça provient vraiment du souvenir des premières œuvres électroacoustiques qu'on appelait les sons à l'envers, et qu'avec un instrument comme l'alto, on fait par un retour d'archet. On prend la pointe et on accélère l'archet et on augmente la pression sur la corde, et ça donne ce profil-là. Voilà, l'attaque est à la fin, et il y a le crescendo. Et pour terminer, une dernière partie de cette phrase, c'est un contrepoint, c'est-à-dire que avec les instruments à cordes, on peut jouer jusqu'à deux voix, on ne peut pas jouer à trois voix, puisque un archet ne peut toucher que deux cordes à la fois, mais là, on a un contrepoint avec une formule à deux voix, où il y a deux voix qui sont indépendantes et qui se superposent. Voilà. Alors cette partita est basée donc sur ce matériau qu'on va retrouver tout le temps de début. Alors au niveau de la structure, justement, la structure va être répétitive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger, c'est qu'on retrouvera toujours ce matériau et toujours dans le même ordre. Mais j'ai voulu y amener, donc c'est quelque chose d'encore assez simple comme structure, mais j'ai voulu y amener un autre élément, c'est ce que j'appelle, ce qu'on pourrait appeler des éclairages, c'est-à-dire si vous avez plusieurs éléments, mais vous en prenez un pour éclairer les autres. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a voilà une série d'éléments A, B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, on isole le A et on a B, C, D, E, F, G, H et on fait en sorte que le A éclaire. Si vous aviez ça comme sous forme de couleur, le A étant bleu, par exemple, toutes les lettres ici deviendraient bleutées. Ensuite, on continue avec une autre forme. Si le B était vert, toutes les lettres deviendraient vertes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'isole les éléments successifs. Ils vont devenir constants, c'est-à-dire qu'ils vont rester constants pendant toute la durée d'une séquence, tandis que les autres éléments vont se dérouler tout le temps dans le même ordre. Et comme ça, je déduis d'une première phrase, deuxième phrase, et ensuite, vous avez compris, on isole le C qui va éclairer, et le D qui va éclairer, etc., etc., etc. Donc chaque, c'est-à-dire qu'on va avoir une répétition de structure tout le temps, donc au niveau de la successivité, au niveau de la syntaxe, donc de la, je vais arriver ensuite à cette idée de grammaire musicale générative, c'était pas encore le cas ici, mais c'est ça. Ça a commencé à poindre dans mon esprit. Au niveau de la syntaxe, c'est toujours la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on trouve toujours les mêmes éléments. Mais au niveau de la forme, comme vous allez voir, c'est tout le temps différent, c'est-à-dire que les éléments vont garder leur relation structurelle, c'est-à-dire ce qui les définit, mais ils vont avoir des caractères différents et ils vont avoir des expressions musicales différentes. Alors, par exemple, pour parler de cet éclairage, le premier élément qu'on avait vu, enfin un des éléments qu'on avait vu, c'était cette note aiguë qu'on avait vue. Et donc ça va être ça l'élément d'éclairage, c'est-à-dire cette note aiguë va éclairer toute la structure musicale. Et on va écouter le début et vous allez voir que on a plusieurs événements que je vais détailler un peu après, mais vous allez voir que très souvent l'altiste revient dans l'extrême aigu et change les notes d'aigu. C'est-à-dire qu'il y a une pédale aiguë qui est d'abord une note, ensuite il va rajouter deux notes, trois notes, il va les changer, il va les modifier, c'est-à-dire qu'il va toujours revenir à cette pédale aiguë, mais qui sera constante, qui sera vraiment comme un fond sonore, et au-dessous duquel se déroule tout le reste de la structure. Une deuxième note. Troisième note, toujours dans l'aigu. Voilà, donc on a cette amplification de cette pédale aiguë. Ensuite, alors on va avoir le premier élément de cette phrase, et si vous vous souvenez bien, la manière dont je l'avais utilisé, c'était un groupe de notes rapides, donc au niveau de la structure, c'était ça. Il y a un groupe de notes rapides, donc des notes différentes, une mélodie, pour tout dire, mais avec une succession rapide et avec une régularité d'énonciation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la structure, c'est-à-dire des notes différentes, des rythmes réguliers, mais maintenant, je vais la placer dans un contexte totalement différent. Les notes seront régulières, mais beaucoup plus lentes. Ce ne seront pas des notes qui seront jouées avec l'arco, mais ce seront des notes percussives qui seront jouées avec des pizzicati. Et ces notes-là vont résonner dans une réverbération. Alors, au niveau de la structure, on retrouve vraiment la structure, c'est-à-dire ce qui définit les événements, régularité rythmique et différenciation des hauteurs. Mais au niveau du caractère, on retrouve quelque chose d'assez différent. Je vous donne l'élément initial. Et sa transformation, mais avec conservation de structure. Voilà, c'est percussion. Donc, on a quelque chose d'assez différent au niveau de l'expression, mais qui conserve, pas une ressemblance, mais un rapport avec ce qu'on avait entendu. Le troisième élément était un tri, donc on va écouter la manière dont celui-ci se manifeste maintenant. Ensuite, toujours dans le même ordre, on avait cette modification, ce ricochet qu'on va avoir, et vous allez voir qu'après le ricochet, la musique repart dans l'aigu, c'est-à-dire que c'est l'éclairage principal, et donc on va y avoir modification de cet éclairage par changement de valeur dans l'aigu, mais après cet élément de ricochet. Un ricochet, et on change l'éclairage. Ensuite, on continue, et maintenant, vous allez, bon, je ne vais pas vous le dérouler, mais vous allez avoir tous les deux autres éléments, c'est-à-dire qu'on a le tri, on a les sons à l'envers, on a la polyphonie à deux voix, tout ce qu'on avait vu avant, qui vont être déroulés, mais toujours sous l'éclairage aigu, c'est-à-dire qu'on a toujours cette couche qui va dominer tout le reste. Thank you. Voilà. Alors, on va écouter maintenant toute cette nouvelle phrase, c'est-à-dire que là, vous avez donc toute cette structure avec tous ces éléments-là. On va écouter maintenant toute cette phrase intégralement, qui est vraiment la reprise de la première, mais dans un contexte totalement différent.
Vous écoutez le compositeur Philippe Manoury, aujourd'hui, grammaire musicale générative.
Alors, après avoir composé cette partita, je me suis dit, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que là, j'avais isolé cette structure avec cette répétition. Je me suis dit, maintenant, on peut peut-être concevoir des syntaxes un peu plus complexes. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un concerto pour violon, enfin, ou une œuvre pour violon et orchestre, qui s'appelle Synapse. Avec l'idée de, cette fois-ci, toujours de garder l'idée de structures qui s'engendrent les unes les autres, mais pas dans la même idée. Et donc, j'ai eu cette idée de grammaire musicale générative. Alors, le terme m'a été reproché, parfois, puisque grammaire générative, c'est un terme qui est très connu en linguistique, et qui est évidemment la théorie de Chomsky. Ça n'a pas grand-chose, ça n'a rien à voir, même, je dirais, avec la théorie de Chomsky. Mais j'ai appelé ça grammaire musicale générative, puisque ce sont des formalismes qui me permettent de créer une syntaxe musicale, c'est-à-dire de gérer et de contrôler ce qui appartient à la successivité. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout un système de composition automatique et globale et totalisant. C'est-à-dire que quand on a fait cette grammaire, on n'a pas encore commencé à composer. Mais on a défini la structure. On a défini la structure, on a défini les relations, on a défini quel moment va être après l'un après l'autre. Et c'est pas parce qu'on les a définis que les choses sont arrêtées. Parce que justement, le fait de les définir, comme je vais le montrer, ça pose des questions que le compositeur doit résoudre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit que A va se trouver avec B qu'on a résolu le problème. Justement, si A est à côté de B, ça pose certains types de questions, par exemple, quelles relations ils vont avoir, dans quelle temporalité ils vont succéder, est-ce que l'un va avoir une influence sur l'autre. Donc, des questions purement compositionnelles qui vont être amenées à être résolues pendant le temps de la composition. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que quand on voit quelque chose comme ça, une structure comme ça, je vais vous l'expliquer, on a l'impression de quelque chose de tout à fait automatique, ce qui est le cas au niveau donc de la structure. Puisque qu'est-ce qui se passe? Ce sont, il y a 10 grandes sections, et chaque section a des sous-sections qui sont en nombre décroissant. C'est-à-dire qu'ici, on en a 10, ici, on en a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et une section. Donc, ça donne l'idée de quelque chose de totalement directionnel et de totalement procédural. Et cette pièce est tout sauf procédural. C'est-à-dire que c'est pas, l'anticipation n'est pas totale, heureusement. Et donc, l'idée avec laquelle ces structures-là vont s'enchaîner est la suivante, c'est-à-dire que vous avez ici la structure 1 et la structure 2 qui vont s'allier pour former la structure 11. C'est-à-dire que la première et la deuxième de ce groupe-là vont donner naissance à la première de ce groupe-là. La deuxième et la troisième de ce groupe vont donner naissance à la deuxième, la troisième et la quatrième vont donner naissance à la troisième. Et c'est pour cette raison que vous avez des structures qui sont à chaque fois en diminution. Et à la fin, c'est apparemment toutes les structures qui ont donné naissance aux autres qui se retrouvent à la dernière fin. Alors ça se passe pas comme ça dans la réalité, mais mon mon fantasme un petit peu de compositeur, je voulais faire une lointaine référence à la symphonie Jupiter de Mozart, dans lequel il y a un tour de force absolument extraordinaire. Vous avez 5 thèmes, donc les uns après les autres, et il y a un moment où Mozart les superpose tout le temps, tous. Donc on a 5 thèmes en même temps, on ne s'en aperçoit pas, mais si on regarde bien la partition, c'est donc la superposition de tous les éléments qu'on a entendus avant au même moment. Et donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que cette dernière structure doit, elle le fait dans une certaine mesure, doit recevoir toutes les informations qui ont été transmises par ces structures. Alors, voilà comment ça se passe. Comme d'habitude, je définis une thématique, alors celle que je vous ai montrée, celle qui était précédemment, ce sont des lots, comme on a vu, des trémolos, des harmoniques, des gammes descendantes, des notes répétées, des pizzicati, des ricochets, des glissandos, des tris, enfin des éléments musicaux, des figures musicales, qui sont, certaines sont répertoriées, qui appartiennent au vocabulaire classique et contemporain, d'autres sont inventées, disons, c'est vraiment des figures, quoi. Et ensuite, je définis une phrase, un ordre préférentiel, qui peut être arbitraire. Alors, j'avoue, je ne me souviens plus du tout comment cet ordre-là m'est venu, mais peut-être il m'est venu de manière totalement intuitive, parce qu'on peut partir de quelque chose d'intuitif, et ensuite voir, analyser ce qu'on a fait, et déduire de l'intuition des éléments plus formels. Alors, il y a un formalisme que j'ai trouvé. Alors ça, c'est vraiment une grammaire, dans le sens où il y a des éléments syntaxiques et il y a un ordre qui va être respecté, un peu comme en allemand, vous avez le verbe à la fin, vous avez l'adjectif en français qui peut être avant ou après le substantif, et vous avez l'article qui est avant le substantif. Enfin, il y a un ordre. Donc là, c'est pas du tout déduit de syntaxe préexistante dans la linguistique ou dans les langues, c'est vraiment une syntaxe musicale abstraite. Et voilà, ce que j'ai décidé, c'est que vous retrouvez, par exemple, ces phrases qu'on avait, B, C, C, D, donc qui provenaient de ces deux structures-là, vous les retrouvez ici, B, C et C, D, on les voit ici. Et la manière dont je vais engendrer ces phrases est la suivante. Je prends les deux éléments successifs, A et D, et je les mets au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire qu'on a B, C et C et D, et je prends les deux autres, D et A, et je les mets au milieu et à la fin. Et on a toujours une symétrie, on a A, D et A. On a toujours le premier et le dernier de la phrase, et à partir de là, je déduis toutes mes autres phrases de la même manière suivante. Ce qui se trouvait aux extrêmes A se trouve maintenant au centre, et ensuite, je prends l'élément suivant, qui est le E, que je mets aux extrêmes, etc. Et on retrouve toujours la même structure qui s'engendre automatiquement, avec, en haut, ces couples d'éléments qui proviennent des phrases précédentes. Et donc, c'est comme ça qu'on aboutit à une phrase qui est ici. Donc, toute la section 3, par exemple, on retrouve, par engendrement de cette structure l'une dans l'autre, on retrouve ces éléments, et on voit qu'on a des conservations, on a des éléments qui restent, par exemple le A ici, il est ici, il est ici, ici il disparaît jusqu'à la fin. Donc on a une permanence d'éléments et des éléments qui s'en vont. Donc on a un retour, on a quelque chose qui se renouvelle et à la fois qui disparaît. Et ensuite, la manière, par exemple, dont je vais passer de cette section-là à cette section-là, comment ça va s'engendrer? Eh bien, je vais, par exemple, prendre ici, si je me souviens bien, je vais prendre tous les éléments communs entre cette phrase-là et cette phrase-là. Il se trouve que c'est les éléments A, D et E qui sont communs et qui vont passer là. Et donc, on va retrouver une partie des éléments de cette phrase-là dans celle-là. Ce qui ne veut pas dire que celle-là va être composée que de ces éléments-là. Mais enfin, disons, l'information va se transmettre comme ça. Et c'est pour ça que vous avez deux éléments qui donnent naissance à un autre élément. Vous voyez qu'on a toujours cette structure où on a deux éléments qui pointent vers un seul élément, et vous retrouvez, voilà, on retrouve cette structure-là, deux éléments qui pointent vers un à chaque fois. Alors, tout est fait comme ça depuis le début. Alors justement, comme j'ai dit, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas commencé à composer. Et il y a deux choses. C'est composé ou juxtaposé. Alors ça me rappelle une plaisanterie qu'avait fait Boulez dans sa jeunesse, au moment où il était très, pas vindicatif, mais très critique, et il disait, et il le regrettait après, il me l'a dit, à propos de Messiaen, Messiaen ne compose pas, il juxtapose. Donc ça avait fait un petit scandale, c'est-à-dire qu'il reprochait à l'époque à Messiaen de mettre des structures les unes après les autres, mais de ne pas jouer sur les transitions, de ne pas faire en sorte que les structures se parlent, qu'on passait de choses. Enfin, même si c'est une phrase qui était peut-être un peu excessive comme Boulez pouvait l'être dans sa jeunesse, mais les idées restent ici, c'est-à-dire que on peut juxtaposer et composer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je tombe sur deux éléments qui sont de nature identique, par exemple ici, vous avez deux traits rouges, ces deux traits rouges ont une certaine longueur, une certaine couleur. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est en haut et un qui est en bas. La manière dont je vais pouvoir résoudre la relation de l'un et deux, de l'un à l'autre, ce sera celle-là, par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura deux traits, un qui sera en haut, un qui sera en bas. Et dans ce cas-là, je juxtapose, c'est-à-dire que je superpose une forme à une autre. Mais il m'est difficile de déduire, on peut toujours imaginer, mais enfin disons, comme ça à première vue, de déduire un trait horizontal avec un trait horizontal, ça donne encore un trait horizontal. Par contre, alors ça c'est des petits exercices, ça rappelle un peu les leçons de Paul Klee au Bauhaus, c'est que si j'ai une forme, un trait horizontal et un cercle, dans ce cas-là, je peux imaginer avoir comme résultat cette chose-là, qui est un cercle, qui épouse l'ondulation du cercle. Enfin, une droite qui épouse l'ondulation du cercle et qui devient cette forme sinusoïdale. Donc, ici, c'est-à-dire que j'ai deux éléments et je vais chercher quelle est la relation et quelle est la forme qui peut être issue du mariage du premier avec du second. Et voilà ce que, un petit exemple en musique. Alors, c'est ça que je disais tout à l'heure, que quand on a fait ça, on n'a pas composé. C'est-à-dire que je me retrouve avec deux éléments. Il faut maintenant que je décide qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je peux les superposer? Bon, on peut les superposer. Mais est-ce que je peux en inventer un qui est le mélange du premier et du second? Wagner a fait ça toute sa vie avec les leitmotifs, entre toutes nos vies. Et donc ici, par exemple, je vous donne juste un petit exemple. J'ai deux éléments B et C. Celui-là, ce sont des groupes de deux notes qui sont deux à deux, et c'est une gamme descendante. Alors, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux imaginer de faire des phrases qui vont être un peu comme une gamme descendante, c'est-à-dire qui vont être groupées comme une gamme qui descend, mais dont les notes sont groupées deux à deux. Voilà, toutes les notes descendent, c'est toujours ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais groupées par deux. Et maintenant, si je veux avoir la relation entre ces gammes descendantes et des notes répétées, eh bien, je peux imaginer de faire une formule en notes répétées, mais dont l'allure générale va être descendante, et comme ça, j'ai la superposition des deux. Voilà, une phrase qui descend en notes répétées et que j'ai toujours donné d'autres. Donc, à partir de cette formule, voilà, j'ai déduit toute cette structure, toutes ces grammaires qui vont s'influencer les unes les autres et qui vont se déduire les unes les autres. C'est-à-dire que ce que vous avez vu avant, eh bien, vous le retrouvez. C'est-à-dire que ce que j'avais fait ici, de cette forme-là, eh bien, on le retrouve dans cette structure-là. Maintenant, ça, déjà, ça nous indique comment résoudre ces problèmes de succession et ces problèmes d'engendrement de structures les unes dans les autres. Et là, on voit quels sont les éléments qui passent d'une structure à l'autre jusqu'à arriver à la dernière. Voilà. Et donc, il y a les éléments qui vont survivre, qui vont continuer à exister et qu'on va retrouver jusqu'à la fin, et des éléments qui vont disparaître. Alors, je me suis dit que ça, c'était bien beau, mais ce n'était pas encore suffisamment complexe. Pourquoi? Parce que on n'écoute pas ces structures. Ces grammaires-là ne sont pas faites pour être écoutées, mais je vous expliquerai comment après. Ce que je me suis dit, c'est que je reviens à ce troisième élément où j'ai 20 à 21, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes 8 phrases et qui les unes se déduisent les unes des autres. Alors je me dis, bon, c'est bien beau d'avoir une phrase, mais qu'est-ce qui va me faire dire que cette phrase-là se termine là? Si vous aviez, par exemple, la musique tonale, vous mettez, par exemple, une résolution. Vous mettez un accord de tonique et vous résolvez l'harmonie ici, et ça vous fait une fin. En musique non tonale, c'est difficile d'avoir ce type de résolution, c'est possible, mais comme ce ne sont pas des choses qui sont vraiment ancrées dans la culture musicale, il faut donner quelque chose qui va nous signifier l'articulation du fait qu'une phrase est terminée et que l'autre commence. Alors, j'ai décidé de rajouter une autre petite grammaire, une autre petite syntaxe, à l'intersection de ces phrases-là, et pour qu'on la repère bien, et j'ai décidé qu'elle ne serait jouée que par le violon tout seul, c'est-à-dire qu'il y a violon et orchestre, et quand le violon joue tout seul, c'est qu'on est à la fin d'une section, et on est à la transition d'une section et d'une autre section. Et donc, j'ai pris de la même manière qu'on a ces structures qui s'engendrent les unes des autres, on va avoir à l'intersection de chacune d'elles ces éléments-là qui vont se permuter avec, les trois premiers se permutent, ensuite on ajoute, et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'éléments, il y en a trois au début, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à la fin. Voilà, donc c'est comme une pyramide, c'est-à-dire que la partie, les petites phrases pour violon solo vont être de plus en plus développées à l'intersection de chaque structure, et c'est ça qui va nous faire la respiration, c'est-à-dire qu'on va écouter ces moments de violon solo qui vont être comme des espèces de respiration dans cette phrase qui elle-même va s'engendrer elle-même. Et donc à la fin, j'obtiens cette grammaire un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on a toute cette structure que vous avez là, mais qui va être précédée par ces petits fragments pour violon qu'on a ici. Et donc voilà comment on passe d'une grammaire, si vous voulez, avec cette liste d'éléments, à celle-ci, qui est déduite de la première, mais vous voyez, elle est assez différente, elle s'est beaucoup développée. Alors, on va regarder un peu comment c'est fait. C'est juste pour vous montrer une partition qui n'est pas la partition de la composition, mais qui est la partition de l'esquisse, dans laquelle je n'écris pas encore de notes réelles, mais je mets des éléments qui me correspondent à ces motifs-là. Et voilà, on voit des notes répétées, des notes trémolos, etc., des glissando, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une phase d'esquisse où les éléments sont juste dessinés. Et très souvent, je compose comme ça. C'est-à-dire que j'ai comme ça une vision qui peut être intuitive ou qui peut être formelle comme ça. Mais avant de se mettre vraiment à la composition, je détermine les proportions, je détermine les rythmes, je détermine les mouvements. Donc c'est une approche progressive de la musique. C'est en ça que je vous dis que cette grammaire-là ne génère pas automatiquement une partition. Et il y a beaucoup de travail artisanal qui est fait entre l'un et l'autre. On va écouter maintenant ces motifs. Et par exemple, on va écouter ce petit motif de violon qui est celui qui se trouve donc entre chaque section et qui est basé sur les éléments J et KL. Donc je voulais décrire. J, c'est une figure qui monte. Le K, c'est un tri. Et L, c'est un glissando. Ça se passe assez vite, mais vous allez les reconnaître. Voilà, hein, on a donc une note tenue d'abord, ça monte, tri, et glissando pour finir, donc qui est très courte. Et ensuite, on a cette première phrase. Alors, la première phrase, elle commence par l'événement A, qui dans mon esprit était un trémolo. Et vous allez entendre, c'est toute la musique qui est basée sur les trémolos, y compris les violons solos, mais aussi les trompettes, les percussions et toutes les cordes, tout est tremblant. Voilà. Donc, hein, c'est vraiment, on entend tous ces éléments tremblants. Les éléments B et C, eh bien, on les a entendus tout à l'heure, c'est ces groupements de gammes descendantes par deux. Donc là, je fais la relation B et C, c'est-à-dire que je compose des groupements par deux dans une gamme descendante, donc c'est une forme qui engendre l'autre. Ensuite, on a l'élément central, je vous rappelle que dans cette forme-là, il y a une symétrie, ce qui est au début est à la fin, et on a l'élément central, qui se retrouve d'ailleurs toujours ici. Cet élément-là, il est basé sur des notes répétées, donc on a plusieurs phrases qui sont basées sur des notes répétées qui changent à chaque fois, mais chaque nouvelle note est répétée un certain nombre de fois. Et on trouve, on l'a entendu tout à l'heure, maintenant on a CD, c'est-à-dire c'est les notes répétées sous forme de gamme descendante, ou la gamme descendante sous forme de notes répétées, comme vous voulez. Et maintenant, on va se retrouver avec le symétrique de cela, c'est-à-dire cet élément A qui va se retrouver à la fin, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une texture faite de trémolo et de tremblement. Voilà, donc ça nous donne ça nous donne voilà, une première phrase. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute quelques, pas tout, mais on va écouter quelques phrases de ces grammaires. Et vous allez voir que autant ces grammaires donc, sont, je dirais, générées avec des procédés plus ou moins automatiques, je pense que cet automatisme ne s'entend pas du tout. C'est-à-dire que vous allez repérer, en tout cas, je vais vous les montrer, les séquences pour violon solo, et ensuite les phrases qui suivent. Et on reconnaît qu'il y a des permanences de certains éléments, mais c'est une musique qui est très, très changeante, c'est-à-dire que la structure a une permanence, mais la forme est en évolution. Voilà, le violon solo, cette phrase-là. Gamme descendante en entrepété, trémolo, maintenant violon solo. Donc on a ces violons solos qui viennent articuler à chaque fois de nouvelles phrases et on a ces phrases qui sont déduites les unes des autres. Alors pour terminer, doit-on entendre ces grammaires? C'est la question qu'on peut se poser parce que c'est bien beau de faire des grammaires. Comme j'ai dit, quand on a fait ces grammaires-là, on n'a pas commencé à composer. Doit-on les entendre? La réponse est non. Pour moi, non. Alors vous me direz à quoi ça sert de faire des choses qu'on n'entend pas. Alors c'est plus un petit peu compliqué que ça. Je pense que pour moi, une structure... c'est quelque chose qui doit porter quelque chose qu'on a à dire. C'est-à-dire que quand je m'exprime, bah, sans le savoir, j'ai une structure chomskienne, si vous voulez, donc dans ce cas-là, enfin, ou même pas chomskienne, mais enfin, une structure qui est linguistique, qui fait que vous comprenez ce que je dis. Vous n'avez pas la structure en pleine conscience quand je parle, mais au contraire, vous prêtez attention à ce que je dis. Donc je pense qu'une structure qui se dévoile, elle prend le pas sur le contenu, c'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a à dire. C'est la structuration, c'est-à-dire qu'on a un discours structuré, on sent qu'il y a une organisation, mais cette organisation n'est pas la chose qui va être mise en avant. Ça va être la chose qui va porter ce qu'on a à dire, mais qui ne va pas être mise en avant. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des compositions il y a des pensées musicales qui sont dans le mode contemplatif, c'est-à-dire que la structure se dévoile. On a par exemple l'école spectrale qui a basé toutes ses recherches et toute son expression sur une certaine contemplation d'un objet spectral, c'est-à-dire des formes musicales qui sont dérivées du spectre. Vous avez d'autres styles musicaux comme la musique répétitive ou certaines œuvres d'un compositeur comme Ligeti par exemple qui sont des processus qu'on entend, c'est-à-dire qu'on entend que le processus, l'œuvre est le processus. C'est tout à fait respectable, hein. Moi j'ai absolument rien contre cette manière de composer, mais en tout cas c'est pas la mienne. Moi, je préfère que la structure soit quelque chose qui soit caché, mais c'est la structuration qui m'importe. Et je pense que quand la structure est absente, là, on ressent un manque. C'est-à-dire qu'une musique qui n'est pas structurée, on l'entend tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, j'entends tout de suite. Si la structure est vraiment trop évidente, donc s'il n'y a pas de pensée à ce niveau-là, moi, je ressens tout de suite un manque au niveau de l'attention que je porte à ce qui est dit. Et donc je pense que la structure, c'est quelque chose qui doit être pressenti, et on doit en avoir conscience sous forme d'indice, c'est-à-dire qu'on doit pressentir un ordre quelconque, mais cet ordre ne doit pas se dévoiler. Et c'est une manière de conserver le mystère à une œuvre, c'est que finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui agit, qui est comme une architecture cachée, qui porte l'ensemble, mais finalement, ce n'est pas cette architecture qui parle, c'est l'ensemble qui parle. Mais si cette architecture n'était pas là, l'ensemble ne tiendrait pas. Donc c'est pour ça que des fois, je passe par des éléments assez complexes pour créer une musique assez complexe, parce que je recherche une certaine forme de complexité, pas pour la complexité, mais une forme d'organicité qui fait que les choses ne se répètent pas automatiquement et qu'on sent qu'il y ait des éléments qui sont maintenus, des éléments qui au contraire qui sont permanents et d'autres qui ne le sont pas. Mais pour y arriver, je trouve que c'est plus important de passer par des phénomènes qui sont ces éléments de grammaire, ce qu'on appelle les grammaires musicales génératives, enfin ces structures d'engendrement qui sont vraiment, elles, très formelles, mais qui vont porter un résultat qui est beaucoup plus complexe, mais qui conserve à la fois la permanence de la structure et l'évolution du matériau. Enfin, je l'espère.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 9 juin 2017 Philippe Manoury, Temps et musique, grammaire musicale générative. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Manoury et les références des extraits sonores. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard sous le titre « L'invention de la musique ». Rappelons également la musique du temps réel, entretien avec Philippe Manoury de Omer Corlet et Jean-Guillaume Lebrun. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France et à Virginie Chauveté. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivons l'exploration des rapports temps et musique en compagnie du compositeur Philippe Manoury dans le cadre de sa série de cours « Musique, sons et signes ». Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.